Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui,
Lim Wong Nok,
qui est maître de conférence à Paris 1. Alors là, j'avoue, je suis drôlement contente parce que je viens de payer mon dernier tiers provisionnel et puis j'ai eu la chance et la joie extraordinaire de m'apercevoir que mes impôts avaient baissé. Donc d'accord, de pas beaucoup, j'ai pu m'acheter une paire de chaussures. Mais du coup, ça m'a quand même interrogée parce que baisse d'impôts sur le revenu d'une part et d'autre part, creusement des déficits et ensuite tout le monde se met à piailler. Pourtant, ça me semblait assez logique. Si on baisse les impôts, après, il risque d'y avoir des déficits, non ?
Le calcul de la droite libérale est que la baisse d'impôts est censée stimuler l'activité économique et que, en fin de course, une activité économique plus forte, c'est plus de production, plus de gens qui travaillent, plus de gens qui payent des impôts à taux réduit. Et donc, au bout du compte, on a des recettes fiscales. Leur précepte de base étant trop d'impôts tue l'impôt, eh bien ils estiment que en baissant l'impôt sur le revenu, eh bien ceux qui entreprennent, ceux qui travaillent seront enclins à le faire et au bout du compte cela accroîtra les recettes fiscales. Or aujourd'hui ce schéma-là est en train de prendre l'eau, puisque l'activité n'a pas repris suite aux baisses d'impôts qui ne datent pas de ce gouvernement. Le gouvernement précédent avait déjà mis en place des baisses d'impôts sur le revenu. Et la conséquence, c'est que l'activité n'a pas repris. Du coup, on a des déficits qui se creusent mécaniquement, puisque si vous avez moins d'activité, vous avez moins de gens qui payent des impôts, et donc les déficits se creusent mécaniquement. L'effet, si vous voulez, qui s'est produit, c'est que au lieu de stimuler l'investissement des entreprises, les baisses d'impôts ont gonflé l'épargne. Ce qui est logique, puisque lorsque vous baissez l'impôt sur le revenu, c'est de cet impôt-là dont il s'agit, vous distribuez du revenu vers les classes qui payent des impôts. En France, il n'y a que 50% des actifs qui payent des impôts. Et les mesures qui ont été prises favorisent en premier lieu les classes moyennes et les classes à haut revenu. Or, ce sont des classes qui ont ce qu'on appelle une propension à épargner plus importante que les classes à bas revenu. Parce que lorsque vous avez un revenu, par exemple, de 50 000 francs, allez, un haut revenu, je raisonne encore en francs, vous voyez.
Moi aussi.
Lorsqu'on vous redistribue du revenu sous forme de baisse d'impôts, bon, vous avez tellement consommé que, sauf si vous êtes collectionneur de Ferrari, vous n'avez pas nécessairement consommé. Et donc, vous allez placer votre argent à la banque qui va se charger de la mettre sur les marchés financiers. A contrario, si vous êtes un ménage à bas revenu au SMIC, si on vous augmente votre revenu, vous allez le consommer plutôt que de l'épargner parce que vous avez des besoins énormes. Donc là, les baisses d'impôts qui ont été faites ont plutôt stimulé l'épargne des hauts revenus. Alors, pour les libéraux, c'est pas gênant, puisque pour les libéraux, l'augmentation de l'épargne, en théorie, c'est une augmentation de l'offre de capital. Et donc, on a plus de capital sur les marchés financiers qui sont mis à la disposition des investisseurs, des entreprises qui demandent du capital. Donc ça devrait stimuler logiquement dans une économie de marché libéral l'investissement, la croissance, etc. Or ça s'est pas produit parce que cette épargne qui aujourd'hui atteint quasiment 17% du PIB, ce qui est un taux historique dans l'histoire économique de France, Eh bien, cette épargne ne s'est pas convertie en investissement. Elle a alimenté, il y a quelque temps, ce qu'on a appelé la bulle spéculative qui a éclaté depuis. Ce qui revient de fait à avoir distribué du revenu en toute perte. On a gaspillé des deniers publics en redistribuant des revenus, en faisant cette redistribution à l'envers vers les classes à haut revenu qui ont quasiment dilapidé les deniers publics, puisque en les plaçant sur des valeurs qui se sont effondrées à la bourse, ça revient en fait à avoir dilapidé les deniers publics. Lorsque le CAC 40 passe de 7000 à 3000 points, ça veut dire qu'il y a eu quand même quelques pertes.
Mais ils sont sots, les libéraux ? Il y avait vraiment une... Enfin, comment c'est possible de ne pas se rendre compte de ça ? Enfin, que ça va se passer comme ça ?
Alors, ce qui est amusant dans cette affaire, c'est que les libéraux n'utilisent même plus l'argument selon lequel ces politiques pourraient être efficaces parce qu'elles stimulent l'offre. Là, on se rend bien compte que ce sont des politiques qui sont orientées vers l'offre, c'est-à-dire qu'elles ont essayé de stimuler l'offre de travail, l'offre de capital, comme on vient de le voir, et que, au bout du compte, ça n'a pas marché. Et donc, les libéraux aujourd'hui expliquent que ces politiques vont marcher dans le futur parce que les baisses d'impôts vont stimuler la demande, la consommation. C'est ça qui est amusant, c'est que, alors qu'auparavant, ils faisaient feu de tous bords contre les Keynésiens qui s'intéressaient avant tout à la demande, aujourd'hui, ils utilisent des arguments quasiment keynésien, comme quoi leur politique a pour but de stimuler la demande. Or, sur ce terrain-là, la mesure la moins appropriée pour stimuler la demande, c'est la baisse d'impôts sur le revenu des classes aisées. Parce que, comme je viens de le montrer, eh bien, ces classes-là ne consomment pas.
Stimuler la demande, ça veut dire faire en sorte que les gens aient des sous et qu'ils aient envie de le dépenser, c'est ça ?
Oui, ça veut dire stimuler... la consommation des ménages, et ça veut dire aussi stimuler la demande de biens d'équipement des entreprises, c'est-à-dire l'investissement des entreprises. Or, aujourd'hui, les entreprises n'investissent pas, et les ménages ne consomment pas, parce que on a des politiques publiques et des politiques salariales d'entreprise qui se sont attachées depuis une vingtaine d'années maintenant à réduire la part des salaires dans la valeur ajoutée. Et il fallait bien qu'à un moment donné, la consommation qui a été le moteur de la croissance entre 97 et 2001 avec les exportations, il fallait bien qu'à un moment, cette consommation finisse par se tarir. Et c'est ce qui s'est produit. Quant à l'investissement, eh bien, il y a une explication très simple. Pourquoi l'épargne dégagée ne s'est pas convertie en investissement ? Eh bien, prenez aujourd'hui le fonctionnement du modèle dit de gouvernance d'entreprise qui s'est propagé en Europe et dans le monde, un modèle où les actionnaires demandent une rentabilité financière de 15% aux gestionnaires et aux cadres, eh bien, vous n'avez pas un seul chef d'entreprise aujourd'hui qui osera prendre le risque d'investir, parce que 15% de rentabilité financière sur le court terme, c'est irréalisable. L'horizon d'un investissement dans l'économie réelle, c'est le moyen terme, c'est 10-15 ans, c'est ce qui se produisait pendant ce que l'on appelait la fameuse période des Trente Glorieuses, où les investissements se faisaient à partir de prêts bancaires à taux extrêmement bas, et donc on avait un horizon qui favorisait considérablement plus l'investissement qu'aujourd'hui, où les actionnaires réclament en moins de 2 ans du 15%. Donc personne ne va prendre le risque, ou alors on va truquer les comptes comme Enron l'a fait aux États-Unis. Et puis, comme on n'a pas investi, si vous prenez la courbe des taux d'investissement en France, eh bien, depuis le début des années 90, elle est en chute libre. Alors que les taux d'épargne sont en constante augmentation avec les taux de profit. Et donc, dans un contexte où l'économie n'investit pas, eh bien, vous n'avez pas une augmentation de ce que l'on appelle l'efficacité des machines, l'efficacité du capital. La productivité globale, ce qu'on appelle la productivité globale des facteurs de l'économie, n'augmente pas. Donc, pour obtenir cette rentabilité financière de 15%, la seule chose que vous puissiez faire, c'est de comprimer la part des salaires dans la valeur ajoutée. D'où les politiques de modération salariale demandées par les entreprises et appliquée par les gouvernements via les baisses de charges, etc. Et d'où le fait que, au bout du compte, eh bien, on a une part des salaires dans la valeur ajoutée qui a tellement diminué que la consommation finit par s'en ressentir. Et donc, on est, à mon avis, dans une situation qui est structurellement récessionniste et qui va nous amener dans les 5 ans qui viennent, grosso modo, à renouer avec des taux de croissance extrêmement faibles, tels que ceux qu'on a vécu dans les années 90, de 93 à 97, où l'économie tournait autour de 1% de croissance.
Des souhaits des âmes, et toujours en compagnie de Lim Hwang-nok, qui est maître de conférence en économie à Paris 1. Alors, d'après ce que vous me dites, rien ne va, puis en plus de ça, ça risque fort de continuer à mal aller. Et en plus de ça, le déficit budgétaire va passer au-dessus de la barre des 3% qui ont été définis par les critères de Maastricht. Et du coup, la France se fait taper sur les doigts. Et si j'ai bien compris, le gouvernement en place dit à peu près « je m'en fous, c'est comme ça ». Ce qui me semble un petit peu étonnant, parce qu'en même temps, je vois pas très bien comment un gouvernement libéral peut dire « je m'en fous » de ces critères. Parce que c'est quand même leur logique qui a mis ça en place, non ?
Oui, vous avez raison. Les libéraux ont poussé même en Europe pour que le critère de 3% soit remplacé dans le pacte de stabilité par l'équilibre budgétaire. C'était au sommet de Barcelone il y a 2 ans maintenant. Monsieur Chirac, lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il a été réélu, puisqu'il était déjà là, a eu, à mon sens, un certain courage. Vous allez me trouver paradoxal. Mais il a eu un certain courage parce que il est allé dans les sommets européens pour expliquer que la France allait renouer avec le déficit budgétaire. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que la France ne réaliserait pas l'équilibre budgétaire en 2004, sauf si la croissance était au rendez-vous. Bon. Tout le monde prévoyait que la croissance allait se casser la figure. Donc ça voulait dire, si vous lisiez la phrase en sens inverse, que eh bien, je vais m'autoriser à pratiquer le déficit budgétaire. Bref, je vais m'autoriser à faire intervenir la dépense publique dans l'économie, comme au bon vieux temps des politiques keynésiennes. Et effectivement, les Keynésiens sont absolument hostiles à l'équilibre budgétaire parce qu'ils estiment qu'au contraire, en période de récession, eh bien, il n'est pas inutile d'utiliser le déficit budgétaire, non pas pour faire du déficit budgétaire, mais pour financer des dépenses d'investissement public ou de redistribution, de telle sorte que cela engendre un effet positif sur la croissance. Les Keynésiens appellent ça un effet multiplicateur, qui provoque donc cette multiplication de la production qui engendre en fin de course des recettes fiscales qui finissent par équilibrer le budget. Bon, mais M. Chirac n'est plus keynésien. Les gaullistes ont été keynésiens pendant les Trente Glorieuses, ils ne le sont plus, malheureusement. Et le gouvernement Raffarin, qui donc disposait des marges de manœuvre ainsi dégagées par M. Chirac, eh bien, les a déjà gâchées. Ils a gâché par les baisses d'impôts, puisque ces marges de manœuvre ont été utilisées pour distribuer à l'envers du revenu en faveur des classes moyennes et des classes aisées, dont les dépenses n'ont pas stimulé la croissance, hein, puisque n'ont pas dépensé, elles ont épargné. Bon. Donc, moi je trouve que la gauche fait un mauvais procès à la droite lorsqu'elle la critique en disant qu'elle ne respecte pas le pacte de stabilité. Le vrai débat que devrait poser la gauche, c'est que les marges de manœuvre qui avaient été dégagées auraient pu être affecté autrement que dans les baisses d'impôts. Mais pour poser ce débat, il aurait fallu que la gauche soit au clair sur le programme économique qu'elle aurait appliqué à la place de la droite. Alors, on se souvient que la gauche aussi avait pratiqué un certain nombre de baisses d'impôts. Or, aujourd'hui, si l'on veut vraiment stimuler la croissance, eh bien, dans un contexte de déprime de l'investissement, On aurait très bien pu utiliser les marges de manœuvre pour stimuler l'investissement public qui aujourd'hui est considérablement déficient, et puis on aurait également pu redistribuer dans l'autre sens vers les classes qui consomment, et puis cela aurait permis également de réduire les inégalités et la fameuse fracture sociale. Mais ça n'a pas été le choix de la droite, et ce vrai débat de politique économique peut, à mon sens, revenir sur le tapis dans la période qui vient.
Mais justement, est-ce que le gouvernement français en particulier serait pas devenu keynésien pur? Parce que j'ai cru comprendre qu'il avait dans l'esprit, avec les Allemands, si j'ai bien compris, de se lancer dans un programme de dépenses européennes. Comme s'il y avait une espèce de grand pacte cette fois pour aller dans le sens de dépenses publiques au niveau européen, d'infrastructures diverses.
Bah, l'aveu de la plupart des gouvernements libéraux aujourd'hui, c'est que les politiques purement libérales ont échoué. Et qu'il va falloir renouer avec quelques remèdes keynésiens. Les États-Unis ont commencé. Depuis 1985, la politique monétaire américaine est une politique keynésienne. La réserve fédérale américaine pratique des baisses de taux d'intérêt à chaque fois que la récession s'annonce, ce qui lui permet de stimuler l'investissement et la consommation, et aussi, puisque les autres pratiquent des politiques de forts taux d'intérêt, eh bien ça permet aussi de dévaluer le dollar et de stimuler les exportations américaines. Donc c'est des recettes plutôt keynésiennes. Et puis le déficit budgétaire américain cette année est un des plus importants de l'histoire américaine. Et donc, ils sont véritablement en train de renouer avec une certaine forme de keynésianisme pragmatique. En Europe, on se rend compte aujourd'hui que, le fait de confier la politique industrielle au marché financier, aux actionnaires, n'est pas nécessairement efficace. Ce n'est pas de nature à assurer un niveau d'investissement suffisant. Et on est en train de réfléchir, là encore, la manière qu'il conviendrait d'utiliser pour relancer l'économie. Alors, les projets d'investissement entrent dans le cadre de cette réflexion, sauf qu'on ne dispose pas en Europe, pour le moment, des instruments qui permettraient de relancer l'investissement public. Les directives européennes, on l'a vu avec Alstom, interdisent désormais toute politique industrielle à l'échelle nationale, et puis la Banque Centrale Européenne est interdite de financer par la planche à billets les projets d'investissement. Et donc, qu'est-ce qui reste pour financer ça à l'échelle européenne? Et bien, c'est le recours aux banques privées, ou bien à l'échelle nationale, c'est le recours à l'emprunt, puisque le troisième instrument de financement des budgets à côté de la masse monétaire et de l'emprunt, c'est l'impôt. Or, comme on veut baisser les impôts, on n'a plus de quoi financer les dépenses avec les impôts. Donc la seule façon d'utiliser, enfin de financer ce genre de dépenses, c'est d'utiliser l'emprunt, ce qui signifie que les États émettraient des bons du Trésor ce qui exercerait une pression à la hausse des taux d'intérêt, puisque pour attirer les épargnants sur les bons du Trésor, il faudrait monter les taux d'intérêt.
Allégre FM, oui, Allégre FM et des souhaits des hommes. Toujours avec Limo Angnok. Et alors, je sais pas si je suis particulièrement obtuse. Enfin, il y en a qui comprennent pas les maths, moi ça va. Mais par contre, je comprends toujours rien aux taux d'intérêt. C'est des taux d'intérêt sur quoi?
Bien, c'est les taux d'intérêt à court terme que pratiquent les banques. Et donc, ces taux d'intérêt à court terme que pratiquent les banques sont calqués. Bon, avec une marge en plus sur le taux directeur fixé par la Banque centrale, qui fixe grosso modo les conditions de refinancement de tous les agents économiques qui désirent emprunter des liquidités. Et donc, les taux d'intérêt ont une influence sur l'activité économique parce que si les taux sont bas, vous pouvez emprunter pour investir ou pour consommer beaucoup plus facilement que s'ils sont élevés. Donc, lorsqu'on dit que les banques centrales pratiquent des politiques monétaires restrictives, ça signifie qu'elles relèvent les taux d'intérêt pour freiner la demande de crédit, parce qu'elles estiment qu'une trop grande demande de crédit de nature à relancer l'inflation. Par contre, lorsque les banques centrales baissent les taux d'intérêt, c'est qu'elles estiment que cela est nécessaire pour injecter du crédit dans l'économie, ce qui a un effet sur le gonflement de la masse monétaire. Et donc, dans ce cas-là, on a une augmentation de la demande, puisqu'il y a plus de gens qui vont demander des fonds pour investir et pour consommer. Mais certains pensent que faire ceci de façon excessive est de nature à relancer l'inflation. Ah, le fait que dans les statuts de la Banque Centrale Européenne, désormais, il y a l'idée que la mission centrale de cette banque, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'inflation, d'où la prudence aujourd'hui des gouverneurs de banque centrale quand il s'agit de baisser les taux d'intérêt. Parce que vous avez un autre effet des variations des taux d'intérêt qui est l'effet sur le taux de change. Dans un univers où la mobilité du capital est parfaite, lorsque vous avez un différentiel de taux d'intérêt entre l'Europe et les États-Unis, par exemple, ils sont plus bas aujourd'hui aux États-Unis qu'en Europe, les capitaux à court terme affluent vers l'Europe, ce qui contribue à dévaluer le dollar. Et donc les Américains jouent là-dessus parce qu'un dollar plus faible stimule les exportations. Ils vendent moins cher leurs marchandises à l'étranger. Et donc aujourd'hui, vous avez un certain nombre de gens qui pensent que la Banque Centrale Européenne commet une double erreur, parce que des taux d'intérêt encore trop élevés ne sont pas de nature à stimuler l'investissement et la consommation. Et en plus, ça produit l'effet pervers d'un euro surévalué par rapport au dollar qui pénalise les exportations.
Comment c'est possible que la Banque Centrale ne pense pas comme vous ?
La Banque Centrale n'est pas keynésienne. La Banque Centrale...
Excusez-moi.
Monsieur Duesenberg et Monsieur Trichet sont des gouverneurs connus pour leurs opinions monétaristes. C'est-à-dire qu'ils pensent que la politique macroéconomique, c'est-à-dire l'utilisation de la politique monétaire et de la politique budgétaire, dépenses publiques, ne doit surtout pas servir à stimuler l'activité économique. Ils estiment que la politique macroéconomique ne sert à rien. Et que stimuler les dépenses publiques, il faudra les financer. Et donc, d'une façon ou d'une autre, ça va créer des effets pervers, soit parce qu'il va falloir augmenter les impôts, soit parce qu'il va falloir augmenter les taux d'intérêt pour émettre les bons du Trésor, soit parce que, même si c'est interdit aujourd'hui, il faudra créer de la monnaie par la planche à billets et donc relancer, selon eux, l'inflation. Et puis, ils estiment, en dernière analyse, que le privé fait tellement mieux que le public qu'il faut laisser faire les forces du marché et que les seules réformes à appliquer sont des réformes structurelles sur les marchés destinées à les rendre concurrentiels et efficients. Et donc les directives européennes aujourd'hui obéissent à la philosophie suivante, rendre le marché des biens le plus concurrentiel possible, d'où les privatisations, d'où l'interdiction de la politique industrielle des États-nations. Et d'où le fait également que sur le marché du travail, on estime que la seule façon de réduire le chômage, c'est pas de faire comme les Keynésiens le recommandent, c'est-à-dire de stimuler la demande, etc., mais c'est de pratiquer des réformes structurelles destinées à rendre le marché du travail plus flexible, pour améliorer la flexibilité de l'emploi, la flexibilité du coût du travail, etc. Donc on a bien des points de vue qui s'opposent et qui sont extrêmement tranchés. Vous voyez que c'est absolument pas un débat technique, hein, c'est un débat qui est extrêmement politique.
Eh bien merci Limor Gnoc, vous m'avez encore une fois complètement déprimé, c'est terrible. La semaine prochaine, ça sera pas tellement plus réjouissant, je le crains, parce que nous écouterons Anne-Cécile Robert du Monde Diplomatique et elle nous parlera de l'Europe. Est-ce que l'Europe est vraiment démocratique? Est-ce que l'Europe prône ou pas le libre-échange? Est-ce que c'est ça son vrai socle de valeur? Je pense que la réponse va être assez peu réjouissante. Bon, alors pour tous ceux qui aiment la déprime, à la semaine prochaine.